Radio BLV 93.6 et nous sommes toujours bien installés dans le salon des cépages et terroirs oubliés au centre culturel à Chabeuil. Donc n'hésitez pas, vous avez 15 vignerons et vigneronnes qui vous attendent avec le sourire et un cœur grand comme ça et surtout des vins à déguster, à découvrir, aiguiser vos curiosités. Après l'Isère, eh bien, on va partir en Ardèche. Donc pas bien loin, avec Louis de Morlouse. Alors comment on dit Morlouse?
Morlouse, c'est un nom flamand.
Merci beaucoup Louis de nous avoir donné cette indication. Bonjour à toi.
Bonjour.
Et bienvenue. Alors tu disais c'est un nom flamand de voilà le Louis c'est le mât de Bagnols de la Belgique à l'Ardèche. Comment on reprend une exploitation? Comment on fait la voilà on, non pas le grand écart parce que ça serait mais en tous les cas comment on fait le pas?
Alors en fait c'est un peu une succession de heureux hasards. Donc avec d'abord une première expérience viticole dans le sud de l'Ardèche il y a 6 ans. En 2015, et puis après, en fait, dans la foulée, 2 ans après, j'ai rencontré donc mon prédécesseur qui cherchait un successeur. Et puis bon, il m'a présenté son exploitation. J'ai vu les vignes. Il y avait 6 hectares. Il travaillait globalement tout seul, donc c'était pas trop impressionnant comme taille de structure au départ.
Oui.
Et puis des vins. En fait, c'est vraiment à la dégustation que j'ai craqué. Quand j'ai goûté ces vins, je me suis rendu compte qu'il y avait un terroir particulièrement intéressant à Vinzac, plus l'histoire du Chatu aussi. Donc, il faisait partie des producteurs de Chatu. On est 6 producteurs en Sud-Ardèche à faire du Chatu. Et bon, bah, tout ça, ça m'a donné envie d'aller plus loin. Donc, on a.
Mais ça a été un hasard parce que tu cherchais une exploitation à reprendre, mais pas forcément, pas nécessairement dans cet endroit-là.
Non. En fait, au départ, on avait regardé plus au sud, sur des terres qui n'étaient pas spécialement propices d'ailleurs pour la viticulture. Mais bon, on voulait absolument se lancer. Ça faisait longtemps que ça trottait. Et puis là, c'est la rencontre avec Pierre Mollier qui m'a propulsé dans le métier. Parce qu'en fait, quand on est en Belgique, on ne rêve pas spécialement de devenir vigneron. Bon, avec le réchauffement climatique, on pourrait espérer.
Bientôt.
Mais ça reste assez catastrophique. Quoi. Donc, voilà.
Mais toi, tu c'est quoi ton parcours du coup?
Alors moi, à la base, donc, je suis ingénieur agronome en Belgique, formé en agriculture tropicale. Et puis après, j'ai travaillé un peu dans l'enseignement, dans la fonction publique. J'ai travaillé aussi dans le poisson. Donc je faisais de l'importation depuis Boulogne-sur-Mer. Et puis, en fait, assez rapidement, j'avais fait un mémoire donc, avant ça dans le cacao, mais les pays tropicaux, c'était quand même un peu loin de la famille. Tout ça. Donc, on est quand même content de rester pas trop loin de la Belgique non plus.
Et puis, ils sont très contents de descendre, j'imagine.
Oui, eux, ils sont ravis de descendre. Ça pose de problème à personne.
Comment, comme tu le disais, ben voilà, tu n'es pas né dans le vin, donc c'est venu comment cette envie, du coup, de t'installer en vigneron?
Mais en fait, j'ai toujours voulu avoir un métier de la production. Donc j'ai pensé d'abord aux élevages d'escargots et puis après ça à la bière en produisant nous-mêmes tous les intrants. Bon, finalement, voilà la possibilité. Donc, en fait, bon,
c'est vraiment la rencontre.
Ouais, c'est la rencontre ici. Bon, après, j'ai eu la possibilité grâce à mon dernier patron, Olivier de Bournay, qui m'a permis de travailler pour lui. Avec un titre ronflant de maître de chais alors que j'y connaissais rien du tout. Et c'est quand même grâce à un type comme ça qu'en fait j'ai pu mettre le pied à l'étrier parce que sinon il y avait très peu de chance. Souvent ça reste quand même assez familial, même en Ardèche, hein, les terres ne se passent pas comme ça. Ici, bon, après avec mon prédécesseur, on a une relation familiale. Quoi. C'est vraiment, il est comme un père et j'espère être un peu comme un fils pour lui parce qu'il a 2 filles. Donc,
Et voilà. Il t'accompagne encore?
Oui. Il me donne encore son avis sur tout, mais en accueillant vraiment favorablement le changement.
Oui, avec un respect de...
Oui, il accepte tout à fait. Au début, c'était un peu dur pour lui, je pense. Maintenant, non, mais voilà, il y a un changement. Ça va globalement dans le bon sens, je pense, et il faut évoluer avec son temps. Quoi. Mais les bases étaient là, et ça ne changera pas. Quoi.
Mais pour toi, c'était important justement aussi d'avoir cet accompagnement?
Oui, indispensable. En fait, déjà en ayant la famille loin, on avait besoin rien qu'affectivement d'avoir un soutien local. Et puis, comme même pour s'intégrer dans le paysage agricole avec des familles qui sont en place depuis très longtemps, ça nous donne une certaine légitimité pour d'avoir en fait la reconnaissance d'un de leurs pères.
D'un voilà. ancien.
Bien d'un sûr. Ancien, oui.
Bien sûr.
Il n'est pas si ancien que ça, mais.
Oui, enfin, voilà. Un ancien, pardon. Autant pour moi. S'il nous écoute, je me confonds. Voilà, On parlait du chatu puisque c'est vraiment le cépage. Alors là, pour le coup, c'est le vin spécial, le chatu.
Oui.
C'est le vin de d'Ardèche, de la particularité. Est-ce que tu connaissais justement avant ?
Non. Non. En fait, je connaissais ni le. C'est un peu. Ouais, je ne devrais pas le dire, mais je connaissais ni l'appellation Côte du Vivarais, ni le chatu. Et en fait, toute cette spécificité du terroir propre au chatu. Je l'ai découvert en mettant les pieds dessus, quoi. Donc comprendre qu'il voilà, il fallait des sols de grès, sols acides, donc vraiment toute la base du Piémont des Cévennes en fait. Mm-hmm. Donc nous à Vinzac, on est sur du calcaire, on cultive des cépages plus classiques, Syrah, Grenache principalement. Et puis dès qu'on s'éloigne un peu, on fait quelques kilomètres et on arrive dans ces bandes de grès qui sont des sols acides très pauvres, des terres assez dures, quoi. Hein, vraiment, mm-hmm. enfin en fait, une des meilleures manières de valoriser ces terres, en fait, c'est peut-être de mettre du chatu dessus. Et voilà, donc la spécificité de ce cépage, je l'ai découvert sur place. Quoi,
et comment il se travaille ? Est-ce que c'est vraiment très, très différent des autres ?
Non, pas tant que ça non plus, parce qu'en fait, au final, on le cultive de la même manière. Donc, vu de loin, c'est la même chose que n'importe quelle autre vigne. C'est pas des treilles comme les cépages interdits où on a par exemple tous les pieds américains qui sont arrivés. Il y en a énormément dans le sud d'Ardèche, le Clinton, Herbemont, Isabelle, tout ça. Ça, c'est plutôt c'est souvent mis en treilles. Nous, non, c'est vraiment des rangées classiques. Ce qui est particulier, c'est au niveau de la vinification. C'est un cépage, les grappes sont très, très, très imposantes. Donc, il y a assez rapidement des problèmes de pourriture. Il faut vraiment suivre l'état sanitaire de très près. Ça, c'est une chose. Il est un peu capricieux au niveau de la production aussi. Donc, on peut avoir tout d'un coup, il n'y a pas de raisin sur la vigne, on ne sait pas pourquoi. Et puis, trois rangées plus loin, il y en a de nouveau. Mais bon, c'est un peu particulier. Sinon, au niveau de la vinification, voilà, là, il y a vraiment quelque chose à faire sur l'élevage pour ne pas avoir des vins trop durs, des vins qui gouléants. Il faut vraiment non seulement avoir un élevage long, mais encore un vieillissement en bouteille souvent de 5-6 ans minimum, quoi.
Et pour qu'ils prennent vraiment, qu'ils s'assouplissent.
Qui s'assouplissent. Et c'est l'intérêt de ce salon ici à Chabeuil, c'est de présenter en fait toute la verticale depuis donc de 2019 à 2010, les premières bouteilles que mon prédécesseur a gardées. Et en fait, ça fait l'unanimité. Et quand on remonte dans le temps, c'est clairement mieux, quoi.
Donc le chatu est un vin de garde.
C'est vraiment un vrai vin de garde. Ouais. Pour le sud de l'Ardèche, c'est peut-être le seul vrai vin de garde, je pense. Ouais.
Donc venez acheter, puis on met
il faut garder
et on l'oublie.
Voilà.
On l'oublie un peu.
Voilà, il faut l'oublier.
Pardon. Toi, quand tu as. Tu travailles seul ?
Alors, je travaille seul, avec un peu d'aide informelle de mon prédécesseur, plus maintenant pour les vendanges des saisonniers. Donc là, on était jusqu'à 15 ici pour les vendanges au mois de. Puisqu'on vendange tout à la main. Et j'ai un peu d'aide pour la taille aussi, donc quelqu'un qui a pris sa retraite dans le domaine où j'étais avant et qui donc vient me donner un coup de main pour la taille. Puis sinon, des stagiaires de temps à autre qui viennent, mais des expériences assez courtes. Quoi. Mm-hmm.
Vous êtes en chatu, il y a combien de domaines, combien d'exploitants ?
Alors on est au moins 4 référencés au syndicat, mais il y en a plus que ça. Quoi. Il y en a, on doit être 6 ou 7 maintenant. Il y a 2 caves coopératives et au moins 5 indépendants. À en faire. Mmh. Après, il y a ce qui est marrant maintenant dans notre secteur, là, je vois du côté de Vinzac, on a énormément d'entraide entre vignerons aussi. Donc, on achète du matériel en commun, on partage nos heures.
Oui.
Ça, c'est une des grosses forces en fait.
La mutualisation à la fois des bras et du matériel.
Oui, et puis parfois des savoirs. Quand on a un bon plan, on ne le garde pas spécialement pour nous. Bon, d'abord, on expérimente. Et puis, et en fait, ça, on en parlait tout à l'heure, là, vraiment, on disait, c'est. Ça change tout parce que sans ça, le métier vraiment, ce serait un métier très difficile. Mm-hmm. Mais avec cette mutualisation, finalement, ça fait passer, ça devient un métier très agréable, quoi. Mm-hmm. Ouais. Quand tout va bien.
Quand tout va bien. Oui, ça reste. C'est un métier pas facile. Alors, je disais dur tout à l'heure. On m'a dit non. Bon, faut quand même pas exagérer. Mais c'est quand même tous les métiers de toute façon qui sont liés à la nature. Quelle qu'elle soit, même si on essaye de, si on tente de la maîtriser, ouais. Et il faut reconnaître qu'elle est souvent plus forte que nous. Donc
oui, on l'a bien vu. Ça ici, on l'a vraiment bien vu. Quoi.
Comment ça se passe cette année, justement?
Mais ça a été une année, on va dire, difficile dans le sens où il fallait être extrêmement vigilant. Il pleuvait tout le temps, donc c'est surtout au niveau...
Comme tu disais, en plus, les grappes sont particulièrement...
Pour le chatu, particulièrement. Mais même pour tout le reste. Hein. Mm-hmm. Les syrahs, ça ne supporte pas l'humidité. En fin de saison, là, il ne faut vraiment pas trop d'humidité. Donc, il a fallu être très vigilant et finalement vendanger en 2 jours ce qu'on voulait vendanger en 1 semaine avant que ça parte en pourriture. Donc, ça a été un peu tendu, et c'est là que les coups de main des uns et des autres ont été vraiment indispensables. Mm-hmm. Mais sinon, Maria, donc la femme de mon prédécesseur, disait on est dans un petit coin du ciel, et en fait elle disait ça à Vinzac. C'est vrai qu'on a, depuis peut-être 30 ans, il n'y a pas eu vraiment de grosses grêles, il n'y a pas eu de très très gros coups de gel à part cette année-ci, mais bon, même avec le gel, finalement, on est quand même bien sorti. Mm-hmm. Donc on est quand même dans un coin assez favorable. Quoi. Mm-hmm. Quand j'entends tout ce qui se passe ailleurs, je me dis qu'on a beaucoup de chance, pour le moment.
Bon, souhaitons-le, voilà, on croise les doigts, effectivement, on dit pourvu que ça dure. Je t'ai demandé à toi, comme aux autres, un accord mets vins. Alors, quel vin as-tu choisi?
Oui, bah alors je pense que le chatu, il est pas mal pour ça. Après, on pourrait prendre des Côtes du Varès, c'est bien aussi, mais vraiment le chatu, avec un chatu même jeune, en fait, hein, tant que le plat est suffisamment consistant et costaud, on va dire, relevé, il n'y a pas de souci, même un chatu jeune, ça passera très bien. Et donc, j'ai le... En plat, donc j'aurai le sanglier cuisson lente. En fait, là, c'est la saison où tous les chasseurs du coin apportent des petits morceaux de viande et on échange bouteilles contre morceaux de viande. Donc, en gros, le sanglier, il faudra bien le travailler parce que sinon, il va rester dans le congélateur. Donc, on en a beaucoup. On le laisse maturer quelques jours au frigo, 4-5 jours maximum. Et puis après, donc, je le badigeonne en fait de moutarde avec beaucoup d'ail, un peu d'oignon. Je fais une préparation en fait moutarde-oignon et je badigeonne le morceau de viande. Je l'emballe soit dans l'aluminium ou alors carrément dans une cocotte, ça marche aussi. Uh-huh. Et puis on le laisse cuire toute la nuit en fait de 9h à 7h du matin. Donc ça fait 12 heures de cuisson, c'est parfait. Uh-huh. À moins de 100 degrés, donc à 90-95 degrés. Uh-huh. Et là, c'est...
Ça confie.
Oui, ça confie et c'est vraiment hyper tendre, quoi. Quel que soit le morceau. Parce que le sanglier, c'est quand même vraiment pas la viande la plus agréable.
Ça peut ne pas être la viande.
Oui, voilà. Ça peut ne pas être la plus agréable. Donc là, c'est bien relevé. Il y a forcément le goût de la moutarde qui imprègne la viande. Mais c'est super. Quoi. Ça, c'est... Et alors, on le mange souvent le lendemain midi avec d'autres vignerons qui viennent manger à la cave ou n'importe qui, enfin des amis qui viennent manger à la cave.
Fais attention parce que là, ils vont tous et tous venir à la cave. Sans nous, on veut goûter.
Et alors, on peut le servir avec des pommes de terre, avec des frites, avec n'importe quoi. Mais les frites, c'est pas mal.
Les frites, c'est
pas
mal.
C'est vite fait, il suffit de les mettre dedans.
Alors, c'est à Vinzac. Tu disais le Côte du Vivarais, puisque effectivement, tu ne fais pas que du chatu. C'est quoi tes autres...
C'est le gros de la production, c'est Côte du Vivarais. Donc, c'est Syrah, Grenache principalement. Mm-hmm. Entre 50-50 et 70-30, mais majorité de Syrah souvent. Sinon, j'ai du blanc aussi en Côte du Vivarais. Donc, c'est Grenache blanc et Marsanne. Mm-hmm. Et alors, du Chardonnay, qui est mon prédécesseur. En fait, les vignes étaient là. Et le Chardonnay, c'est pas du tout un cépage typique du sud de l'Ardèche. Mais il a des avantages, en fait, il mûrit relativement tôt, donc on peut se permettre de le tailler plus tard et même le tailler après le gel, pour avoir finalement un raisin qui va mûrir un peu plus tard, plutôt fin septembre au lieu d'être fin août.
Et qui permet aussi, du coup, de lisser un peu le travail qui est
le
travail à faire.
Et puis en plus, c'est quand même des bons cépages. Voilà, même s'il est très répandu, c'est pas pour rien. C'est quand même bon. Quoi. Donc, après, je commence à m'intéresser beaucoup à ces cépages oubliés, mais pas le chatu. Hein, donc ces cépages américains, dits cépages interdits, peut-être en minorité, je me dis que dans des vins qui seraient déclassés en vin de France à ce moment-là, mais pourquoi pas, quoi.
Ouais, à goûter, à tester.
À tester, mais ça a vraiment des côtés fruités, parfois framboises. Ça n'a rien à voir avec les vins, je ne pense pas qu'il y en ait ici sur le salon, parce que comme ils sont interdits, on ne les trouve pas sur le salon. Voilà.
Dont acte.
Voilà.
Mais donc, là aussi, tu rejoins un petit peu ce qui a été dit, c'est que le vin, c'est très personnel, c'est celui qui fait le vin, parce que j'imagine que quand on reprend comme ça, il y a un moment où on a envie de mettre sa patte aussi, et donc de créer son propre vin.
Exactement, et ça met du temps en fait. Au départ, moi, j'ai repris les cuvées de mon prédécesseur, avec le nom des cuvées de mon prédécesseur, la façon de faire, et petit à petit, j'ai modernisé un peu le parc de tonneaux pour avoir peut-être des finales qui me plaisait plus à moi. les noms des cuvées, l'étiquetage, tout évolue, mais c'est très lent parce que déjà il fallait pas tout casser, sinon sûr. Je pense que j'aurais perdu un gros soutien. Et puis, ça met un peu de temps. Bah, le passage en bio aussi, quand même, ça, ça a été une des nouveautés. La vendange manuelle, c'est une nouveauté aussi. En fait, tout ça, ça a 2-3 ans maximum.
Ouais, c'est beaucoup, beaucoup de changements, beaucoup de travail avant, et d'installation avant de pouvoir.
Il y a ça au niveau de la production, et puis après il y a tout le reste de l'emballement, quoi. Donc d'autres vignerons qui disent tiens, on pourrait peut-être s'associer pour essayer de. Moi je ferais les terres, toi tu ferais la vinification, et ça permettrait de mutualiser et de s'agrandir aussi. Quoi.
Bien sûr. Voilà. Super, merci Louis d'être venu. Mais avant de se quitter, je t'ai demandé aussi de choisir un morceau de musique. Et donc, on est parti sur le concerto numéro 7.
J'espère que c'est celui-là.
Je ne sais pas. En tous les cas, c'est un morceau de Bach. Alors, on a notre rêveur baroque qui est là, donc qui est beaucoup plus connaisseur que moi. Et c'est Glenn Gould, en tous les cas, avec le Columbia Symphony Orchestra sous la direction de Leonard Bernstein. C'est pas mal comme.
Oui, c'est bien choisi. C'est un enregistrement assez rare de Glenn Gould, enfin peu connu en tout cas par rapport à ses variations Goldberg.
Voilà. Bon. Et alors, pourquoi toi tu as choisi ce morceau? On espère que c'est le même, parce qu'il y a mille et une interprétations, on n'a pas eu vraiment le temps d'échanger avant.
Oui, enfin même, ça aurait pu être tout à fait autre chose de Bach, moi j'aime, en général ça passe
c'était
toujours
Bach.
Bien. Mais, mais c'est vrai que c'est des moments, quand on est tout seul dans les vignes, je ne sais pas, il y a une évasion avec cette musique-là. Quand on a des paroles, par exemple, j'adore la chanson française, sinon j'aurais proposé plutôt un morceau de chanson française, mais... C'est pas la même chose, on a accroché. Enfin là, avec la musique classique, en général, on s'évade complètement. Quoi. Bon, là, c'est Bach parce que
oui, parce que c'était celui-là.
Mais oui, il y avait une forme d'évasion. On est beaucoup plus en phase avec ce qui nous entoure. En fait, avec la musique classique, je pense qu'avec, pour moi en tout cas, qu'avec toute autre forme de musique où on reste. On est, je sais pas, il y a quelque chose.
Il y a une liberté.
Il y a une liberté, apportée par. Principalement, je trouve, chez Bach. Après, oui.
Ouais. Bon, on va écouter en tous les cas.
Tension quand même, mais pas trop. Enfin, je sais pas.
Oui, Bach comme une évidence, je peux dire.
Voilà. On va dire pour ce coup-là.
Merci beaucoup, Louis. Et on écoute, on laisse nos oreilles à Bach. Merci beaucoup. Vous écoutez Radio BLV 93.6. Nous sommes en direct du Salon des cépages et terroirs oubliés à Chabeuil. Nous sommes au Centre culturel. Ce sont 15 vignerons qui vous attendent. Je l'aurais répété suffisamment pour que vous l'entendiez. Et vraiment, venez les découvrir et venez découvrir surtout leur vin qu'ils préparent avec amour. On retrouve notre rêveur baroque pour une deuxième, salve d'accords musique et vin.
Eh bien voilà, je continue avec mes petites histoires et anecdotes autour du vin et de plein d'autres choses. Alors vous êtes dans ce salon pour déguster et sûrement pour acheter des bouteilles. Vous allez acheter des bouteilles de 75 centilitres.
Oui.
Vous allez acheter souvent des bouteilles par 6.
C'est possible.
Voilà, est-ce que, peut-être le savez-vous, mais pourquoi les bouteilles sont souvent vendues par 6 et pourquoi font-elles 75 centilitres ?
C'est une excellente question.
Bon, ben voilà, je vais vous en donner la réponse et l'explication historique. C'est les Anglais qui avaient le monopole de la livraison des vins de Bordeaux au 19e siècle et dans d'autres régions d'Europe. Ils le transportaient en barrique de 225 litres. Ils utilisaient comme unité de mesure le gallon impérial, qui faisait 4,5 litres. Une barrique faisant 50 gallons, 225 litres, correspondait à 300 bouteilles de 0,75 centilitres. Un gallon équivalent ainsi à 6 bouteilles, ce qui explique que les caisses de vin sont souvent vendues par 6.
Alors, gallon ou gallon ?
Gallon, je pense.
Un gallon.
Oui, je pense pas me tromper.
Non, parce que j'entendais le mot galant et je trouvais ça joli. Ah, que galant, galant aille par 6.
Alors, boire et chanter, ça toujours, c'est toujours allé très bien ensemble, si bien qu'à la fin de la Renaissance en Angleterre, on réfléchit à ça et pour se simplifier la vie, on invente une partition à 4 voix sur une seule page pour se réunir, pour être plus près, pour avoir son verre plus près. Et cette partition, donc, qui est carrée, de fait, on se retrouve avec la partie à chanter devant soi, donc les 4 convives ont leur partie à chanter comme un petit peu le jeu de belote qu'on a en main. Et de grands nombres de compositeurs anglais ont composé des musiques, des chansons à boire pour, avec cette notation particulière qu'ils ont appelée chansons de taverne. Le vin, c'est l'automne, c'est les vendanges. Et même si ça ne chante pas autant que le printemps, même si ce n'est plus la saison des amours, l'automne inspire les musiciens. Tel ce bois mortier qui, au milieu du 19e siècle, n'hésite pas dans sa cantate l'automne à sacrifier l'amour pour le vin. Il nous dit à sa façon, à la façon de son temps. Alors je vais d'abord vous lire, parce que c'est peut-être pas toujours, après je vais vous faire écouter, mais la diction est peut-être pas toujours précise, on peut ne pas comprendre les paroles, donc je préfère vous lire donc cet extrait de la cantate l'automne de Boismortier. C'en est fait, à Bacchus je cède la victoire. Garde-toi, Dieu d'amour, de troubler mes plaisirs. Dans la saison des fleurs, j'ai poussé des soupirs. Dans l'automne, laisse-moi boire. Phyllis n'a plus d'appât près de ce jus divin. Il éteint tous les feux dont je brûlais pour elle. Si tu veux que mes yeux la trouvent encore elle, offre-la moi le verre en main.
Belle, joli texte.
Eh bien, on l'écoute. Alors, je ne me souviens plus de l'ensemble.
Boismortier, alors peut-être un petit... Qui est Boismortier ?
Alors, Boismortier, c'était un compositeur qui est né près de Paris et qui a eu... C'était pas un vrai compositeur, en fait. Il a... Son métier, il s'est retrouvé en Catalogne pour les impôts, pour relever les impôts royaux. Et il a eu une multitude d'aventures, un petit peu voleur, un petit peu voilà.
C'est quoi, c'est impôts qui te fait penser à voleur, c'est, ou c'est une réalité ?
C'est un peu flou, mais c'est le compositeur le plus prolixe du XVIIe siècle. Il a composé énormément de choses. Ce qui a fait dire, alors là, j'ai plus dans la tête celui qui a dit ça, qui a dit écoutez les œuvres de Boismortier. Alors, les termes exacts, je ne sais plus, mais dans tout ce fatras, dans tous ces immondices, vous allez arriver à trouver des choses un petit peu. au lit.
C'est pas très sympathique, mais par contre, ce que tu nous fais écouter, c'est une des perles.
Oui,
c'est
et puis moi, j'adore ce compositeur Bois Morté. J'en joue beaucoup avec des amis là, en amateur, et c'est une musique, voilà, j'aime beaucoup.
Eh ben, allons-y.
Sa voix, ma cuisse va combler nos désirs, ma cuisse va combler nos désirs. Chantons, dansons et comptons vers sa voix, ma cuisse va combler nos désirs, ma cuisse va combler nos désirs. Unissons-nous pour soutenir sa gloire, puisqu'il prend soin de nos plaisirs. Unissons-nous pour soutenir sa gloire.
Ça, c'était Bois Mortier, mais tu voulais nous proposer autre chose, voilà. Cher rêveur baroque.
Eh bien, on parle souvent de l'accord Mévin, bien sûr. Alors, je voulais vous parler de l'accord musique Mévin. Alors, accord, ça marche bien, puisque accord, c'est aussi dans la musique. Donc, voilà.
Accordons-nous.
Accordons-nous. Alors, ça part un petit peu de cette idée d'un souvenir. Dans les années 80, j'étais invité par un vendeur importateur de pianos qui s'est amusé à inviter des pianistes, des grands pianistes, des pianistes renommés, pour les faire jouer sur différents pianos à queue, de marques différentes, bien sûr, telles des grandes marques, Steinway, Yamaha, Bösendorfer, Schimmel, etc., pour définir avec le public quel vin correspondrait le mieux à leur sonorité.
Ah, joli.
Alors, je m'en souvenir n'a pas d'exemple de quel vin était associé à tel piano, mais alors peut-être que vous pouvez vous amuser en dégustant différents vins, à les associer à une musique ou à un instrument. Voilà, alors pour ma part, j'ai choisi un vin et une musique et un instrument. C'est le chatu, là, dont on parlait tout à l'heure, cet ancien cépage d'Ardèche. Et je l'ai associé à la sixième partita de Bach pour violoncelle seul, surtout pour sa douce rugosité.
Après Bach et notre rêveur baroque et ce clin d'œil à Louis, on va retrouver notre dernier vigneron avec qui on partage ses portraits. C'est Johan Bonin. Bonjour Johan.
Bonjour.
Et bienvenue sur le plateau de Radio BLV. Nous sommes toujours, je vous le rappelle, à Chabeuil. C'est le salon des cépages et vins et terroirs oubliés. Pardon. On est au centre culturel, donc venez nous rejoindre, n'hésitez pas. Alors, Johan Bonin, c'est le domaine de Johan et on pourrait dire que c'est vraiment le local de l'étape, puisque toi, Johan, tu es installé à Toulouse, mais tu as aussi des vignes à Chabeuil.
Tout à fait. J'ai des vignes à Chabeuil, donc je suis le plus proche de l'événement possible. Ouais.
Tu es vraiment dedans. Et alors en plus, alors on va parler vin, mais juste une petite parenthèse et un petit clin d'œil, c'est que tu as été intronisé tout à l'heure par la confrérie du Taste-Caillette de Chabeuil. Sacré honneur.
Ah, tout à fait. Une très grande fierté de rentrer dans cette confrérie. Qui soutiennent avec beaucoup de ferveur l'événement aussi auquel je participe.
Alors, toi, Johan, tu es sur Toulouse.
Sur Toulouse.
Tu es basé sur Toulouse, donc en Ardèche.
Ardéchois.
Et Ardéchois de. Si tu as le droit, si, non, il n'y a pas de. Non, là, il s'agit. Là, on parle de bon vin, donc bon, voilà, on ne parle plus de guerre. Toi, tu es Ardéchois d'origine, tu es arrivé
oui.
ici.
Ouais. Oui, je suis Ardéchois Saint-Pérolais, on va dire, de souche.
Et tombé dans le vin petit ou
pas petit, pas de famille. J'ai appris un peu sur le tard aussi parce que j'aimais pas forcément ça étant plus jeune à l'adolescence. Mais dès que j'ai mis un pied dedans, je suis rentré dans la tornade et ça m'a amené où j'en suis aujourd'hui. grâce à beaucoup de gens qui m'ont fait découvrir et qui m'ont fait apprécier ce produit de grande valeur.
Alors effectivement, toi, tu as une particularité sur Toulaud. On est sur le salon des cépages et terroirs oubliés. Et toi, alors, tu as un cépage qui est très particulier. Et j'ai découvert tout à l'heure en passant, en discutant off, que c'est une vigne qui est la vigne que tu travailles à Toulaud. C'est une vigne qui a 160 ans.
Alors ouais, c'est une très très vieille vigne et d'autant plus qu'elle est plantée en franc de pied. Donc ça veut dire qu'elle est plantée directement le pied français dans le sol, à savoir que la plupart des vignes françaises ont été greffées suite à un petit puceron qui a ravagé la vigne en France. Suite à ça, elles ont été greffées sur des pieds américains qui étaient résistantes. La mienne est restée comme ça pour une raison encore un peu mystérieuse.
Donc elle a échappé au phylloxéra.
Elle y a échappé. Alors, potentiellement, ça peut venir du cépage ou du sol, mais en tout cas, elle résiste.
Et alors, c'est le Grand Noir de Calmette, c'est ça ?
C'est ça. La Calmette, c'est un petit village dans le Gard, donc je pense que ça provient de là-bas, les bois, en tout cas, de la vigne à la base. Et donc, ça a été importé chez nous. Par un biais, du coup,
par un colporteur,
j'étais pas né, mes parents non plus, quoi. Je veux dire, c'est une époque que je n'ai pas connue. Malheureusement, ça devait être intéressant.
Il y en a d'autres ailleurs, tu sais un peu.
On en retrouve un petit peu dans les bouts de rangée de Saint-Péret. Souvent, quand c'est des parcelles de blanc, on a un petit pied de rouge en fin de rangée. C'est souvent ce cépage.
D'accord.
Sur des grandes surfaces, ouais. Moi, j'ai 3000 mètres, mais sur des surfaces un peu plus conséquentes. Mm-hmm. J'en ai pas retrouvé.
D'accord, voilà. Nulle part.
Nulle part.
Ah oui,
ni
donc
dans c'est... le Gard, ni chez nous, nulle part.
Donc c'est vraiment une totale exception. Elle est à mettre sous cloche, celle-là.
Ouais, je le garde précieusement.
Et alors, c'est quand même une histoire extraordinaire. Enfin, voilà, c'est vraiment une histoire extraordinaire du début à la fin. Parce que c'était au tout début où tu t'es installé ?
C'était ma première parcelle que j'ai trouvée via Le Bon Coin, qui m'a permis de m'installer et de devenir vigneron. Parce qu'à l'époque, je travaillais chez un vigneron et du coup, je n'étais pas à mon compte. Et c'est Le Bon Coin qui m'a amené à rencontrer un vieux paysan qui avait cette parcelle, qui voulait s'en séparer et qui me l'a laissé. Et c'est grâce à lui, d'ailleurs, je lui rends hommage sur la bouteille, à son nom. C'est grâce à lui que je peux en être là aussi aujourd'hui. J'ai pu avancer grâce à cette vigne qui, du coup, chaque vigneron, on peut le demander à tout le monde, mais rêverait d'avoir une vigne aussi vieille.
Oui,
et c'est... moi, en tant que première vigne, c'est quand même...
C'était un sacré cadeau du ciel.
Ouais, c'est une bonne étoile qui me suit.
Alors, pas forcément facile, parce que, qui dit vigne, vieille vigne, et donc cépage, alors là, pour le coup, quasiment en voie de disparition, c'est pas facile quand on démarre.
Alors, c'est pas facile parce que c'est pas au goût de chacun, parce qu'on a aussi on est dans la vallée du Rhône, donc on aime beaucoup la Syrah, on aime beaucoup les vins qui sont produits, et c'est des grands vins, des grands crus qui sont produits chez nous. Mais c'est vrai que pour l'amener au goût des gens, c'est un peu plus compliqué parce qu'il a une spécificité, une authenticité. Et en plus, pas facile parce qu'une vieille vigne, ça produit très peu, et du coup, on a très peu de rendement, donc économiquement, c'est un peu plus difficile. Ouais.
Est-ce que ça demande des soins particuliers ?
Alors, au contraire, du coup, comme c'est une très vieille vigne, elle est résistante aux maladies, donc on n'a pas besoin d'y faire de traitement, et donc on n'en fait pas du tout sur l'entièreté de la production de l'exploitation. Et en plus, comme c'est en... Je vais passer un peu dans le technique, mais comme c'est planté en franc de pied, une fois que la surface hors sol est morte, on peut la couper et si les racines sous-sol sont encore vivantes, on repousse le même pied. Alors que dans l'absolu, c'est souvent les Américains qui prennent, les pieds américains qui prennent le dessus une fois qu'on a coupé le hors-sol. Quoi.
D'accord. Et est-ce qu'il est possible de... Est-ce que tu... Encore une fois, là, moi je suis néophyte totalement. Est-ce qu'il est possible d'en replanter ?
Ah, il est possible d'en replanter dans l'aspect technique, c'est possible. Dans l'aspect juridique, c'est un peu plus compliqué. Et il faudrait potentiellement le planter dans exactement le même sol pour être sûr qu'il résiste encore au phylloxéra et que dans des sols plutôt sablonneux ou disons dans des grandes plaines, ce serait peut-être moins, ça fonctionnerait peut-être moins.
Mm-hmm. Alors tu as cette voilà cette espèce de petite pépite là de cadeau du ciel avec lequel tu fais un vin que tu appelles qui est la cuvée Prestige, c'est ça. Et alors, il y a des drôles de noms pour drôles de vins, on pourrait dire, puisqu'on a le Petman, on a l'Adoré, on a Ensemble, on a Marley, on a Merci, et on a la cuvée Prestige. Prestige, soyons bien clairs. Alors, qu'est-ce que tu vendanges ici ? Quelle est la parcelle que tu as sur Chabeuil ?
Alors, sur Chabeuil, je produis la cuvée Merci, donc en Merlot et Syrah, et la cuvée L'Adoré en Vionnier et Marsanne, parce qu'en fait, c'est une vigne, encore une fois, que j'ai récupérée, qui n'était pas cultivée professionnellement. Et donc, du coup, la vigne avait été complantée avec des pieds de blanc. Quand les pieds de rouge étaient morts, l'ancien propriétaire mettait des pieds de blanc.
D'accord.
Et donc, du coup, je me suis retrouvé avec une vigne où il y avait trois pieds de rouge, un pied de blanc, deux pieds de rouge, un pied de blanc. Quoi. C'était assez éparse. Et donc, du coup, je produis une cuvée de blanc et une cuvée de rouge sur la même parcelle à Chabeuil. Donc, la cuvée Merci et la cuvée L'Adoré.
D'accord. Et alors, la cuvée Petman, c'est quoi ?
Alors, c'est une cuvée qui provient de Étoile et c'est un pétillant naturel de Syrah, donc en rosé. Donc, en fait, c'est un pétillant naturel. C'est un vin qu'on met en bouteille avant la fin de fermentation, qui finit de fermenter dans les bouteilles et qui crée du gaz. Et donc, on retrouve un vin pétillant, un peu comme un champagne, mais avec un peu moins d'alcool, beaucoup plus pour l'apéro, des vins assez accessibles.
Peu festif,
qu'on se rend compte du nombre de bouteilles qu'on a bu à la fin de la soirée. On s'est dit, il était bon celui-là.
Alors, d'aucuns disent vigneron druide, pourquoi ?
Alors, parce que je fais beaucoup de tests et j'adore, si je fais tout le temps la même chose, je m'éteins. J'aime faire des expériences. Entre autres, cette année, j'ai fait une sorte d'hydromel parce que je suis aussi apiculteur. Donc, j'ai fait une hydromel en assemblant mon vin blanc avec mon miel. Et donc, j'aime expérimenter.
Tu testes.
Je teste. Et c'est ce qui me fait vivre et c'est ce qui m'intéresse aussi dans ce monde-là. C'est qu'il y a énormément de façons de faire, énormément de possibilités de faire des choses, des genres nouveaux. Donc, j'ai envie de tout essayer. Je ne veux pas me cantonner à me dire je fais que ce vin tout le temps. Je veux faire ce vin. Et puis après, essayer de faire une petite quantité ça, une petite quantité ça. Et puis si c'est bon, si ça marche, je foire des fois, hein, ça arrive.
Et si c'est bon, ceux qui font rien, voilà, qui se trompent pas, comme on dit.
Si ça marche, on le produit en plus grosse quantité du coup, et on s'amuse comme ça. Et c'est ce qui nous maintient en vie et qui nous maintient l'envie tous les matins d'aller travailler pour créer de nouvelles choses, quoi.
Alors Jean-Luc, tout à l'heure en aparté, notre rêveur baroque me disait, je ne sais pas si en fait avec les vins bio, les vins nature, etc., la palette gustative est très différente de ce qu'on a l'habitude de trouver sur des choses plus traditionnelles, voire carrément commerciales. Hein, il faut dire aussi oui. les mots tels qu'ils sont. Est-ce que toi, tu vois cette évolution du goût et dans tes clients et clientes, est-ce que les gens recherchent ça maintenant aussi ?
Alors, il y a beaucoup de gens qui le recherchent déjà pour l'aspect sanitaire. Du fait d'avoir beaucoup moins de produits, qu'ils soient chimiques ou pas, mais d'avoir beaucoup moins de produits et d'arriver sur l'essentiel, le raisin. Ensuite, quand il s'agit du goût, dans les vins nature, on n'a pas de sulfite ajouté, à savoir que le sulfite, c'est un décolorant et un désaromatisant. Donc du coup, quand on ajoute, on perd de l'aromatisme, on perd du goût, on perd de la couleur, on perd pas mal de choses. C'est un conservateur. Et du coup, dans les vins nature, souvent on me le dit et on le retrouve, c'est qu'on a un goût de raisin, ce qui devrait être logique dans un vin. Après, je le fais de cette façon, je lance la pierre à personne, chacun fait comme il l'entend, comme il le voit et surtout comme il le peut. Mais c'est vrai que dans les vins nature, on a des goûts qui sont différents d'un vin à l'autre, on arrive à des fois avoir des trucs complètement opposé, et c'est ce qui crée aussi l'envie des gens de découvrir tout ça, c'est de de venir sur des choses nouvelles à chaque fois. C'est des expériences. Et puis souvent, on rencontre des gens, des uberlus, des gens un peu farfelus. Parce que voilà, pour l'instant, il faut être un peu farfelu pour en venir à faire ça. Parce que ça amène aussi des contraintes qui sont assez importantes en termes de rendement et de production, quoi.
Oui, voilà, oui, c'est pas, on n'est pas, enfin, les ce qui motive, c'est pas tout à fait la même chose.
Voilà, c'est ça, ouais, exactement.
Alors, je t'ai demandé à toi comme aux autres, voilà, je le dis pour la cinquième et dernière fois de la journée, une recette, un accord mets et vin. Et alors, quel vin as-tu choisi mettre en avant ?
Moi, je choisis le Prestige parce que c'est le marché, le salon qui en fait l'honneur. Donc, c'est le vieux cépage. Et j'ai choisi une recette d'un civet de chevreuil parce que c'est un vin qui est très costaud, très structuré. Et je dis, c'est un vin à manger. C'est un vin qui mérite d'être bu dans un plat qu'on a cuisiné avec. Je ne sais pas si c'est compréhensible, mais on met une demi-bouteille de Prestige dans le civet et on met l'autre demi dans son gosier. Et là, on passe un super moment. Avec modération.
Mais alors, pas n'importe quel civet de chevreuil, civet de chevreuil patate douce.
Oui, avec la patate douce. Un peu de sucrosité, un côté un peu sucré. Ça, je trouve que ça, le sucré salé s'accorde toujours bien avec les vins rouges. Et j'adore boire du vin avec du chocolat, par exemple, et ou avec des desserts. Souvent, on boit des blancs avec des desserts. Et je trouve que le vin rouge, sur un côté un peu sucré, Ça relève le vin, en fait. Ça le rend meilleur, ça l'adoucit, ça le rend un peu plus sympathique à boire.
Merci à toi, Johan. Et on finit par le morceau de musique. Et donc, tu as choisi Bob Marley avec Three Little Birds. Est-ce que tu peux nous en dire quelque chose ? Bon, il y a une cuvée qui s'appelle Marley.
Oui,
donc on suppose
ma fille s'appelle Marley. Voilà. Donc, c'est un hommage à ma fille, entre autres. Et c'est surtout une musique qui me parle beaucoup parce que, quand on la comprend et qu'on en fait la traduction, tout se passe toujours bien, il n'y a jamais de problème, et on va toujours de l'avant et quoi qu'il arrive, tout se passe
bien.
Tout va bien
aller. Voilà. Merci Exactement. Beaucoup, Johan.
Merci à vous.
About a thing.
Bob Marley, Three Little Birds sur Radio BLV 93.6. C'était le choix de Johan Bonin qu'on vient d'entendre. Nous sommes en direct du Centre culturel à Chabeuil pour donc ce fameux salon Cépages et terroirs oubliés. On aurait dû compter le nombre de fois où je l'ai dit. On termine ce temps de direct. Je remercie infiniment Jean-Luc, notre rêveur baroque, d'être venu jusque-là. Merci beaucoup Jean-Luc.
Avec plaisir d'avoir participé à ce salon.
Et je remercie Jérémy qui n'a pas de micro, mais voilà, qui assure la régie toute cette journée. Alors, soyez au rendez-vous. Venez goûter les vins, venez déguster, venez rencontrer les vignerons. Et puis, revenez à l'antenne à 15h, puisque de 15h à 15h30, on vous propose une table ronde radiophonique, mais que vous pourrez aussi voir sur site, avec un œnologue, avec des sommeliers et avec Pascal Jamais. Alors, œnologue, eh bien, c'est Christophe Gerland qu'on a entendu ce matin. Il y a deux sommeliers qui sont des jeunes du lycée qui suivent le cursus sommellerie au lycée hôtelier de Tain-l'Hermitage, et donc Pascal Jamais. Donc ça sera de 15h à 15h30. À 15h45, vous retrouverez la séance d'initiation à la dégustation des vins avec focus sur les arômes des cépages oubliés par Christophe Gerland, justement. Et à 16h45, l'association Terre de Treille vous fait déguster du vin de ses premières vendanges. Vous avez jusqu'à 19h pour venir aujourd'hui nous retrouver sur le salon. Et demain, dimanche 14 novembre, ce sera donc de 10h à 18h, avec à 15h30, là aussi, la séance d'initiation à la dégustation et deuxième dégustation du vin à 16h40. D'ici là, vous pouvez rester sur Radio BLV. On se retrouve en tous les cas à 15h en direct de Chabeuil. Et puis sinon, vous venez à Chabeuil et vous venez à la fois déguster et nous rencontrer. Merci beaucoup. Thank you.